les héroïnes, une heure avec des meufs.
Il y a quelque chose qui nous lie, nous vivons toutes les deux la nuit. Nous sommes nés sur les mêmes terres, encore plus à l'ouest que l'enfer. Jamais je ne te l'ai dit, je pense que la mélancolie qui coule dans ton sang et le mien est issue de ce foutu sang.
Les héroïnes, une heure avec des meufs sur Canal B.
Bonjour à toutes et à tous, c'est Morgane, bienvenue dans les héroïnes, aux auditeurices qui sont avec nous en ce vendredi 27 février et à celles qui nous écoutent en rediffusion le dimanche à 10h parce qu'on les oublie trop souvent. Aujourd'hui avec moi autour du plateau, il y a ma fidèle Marine Combe. Bonjour Marine.
Bonjour.
Vous êtes cofondatrice et rédactrice en chef du magazine féministe René Yeg que l'on retrouve sur yegmag.fr. Avec vous tout à l'heure Marine, on recevra Léonie Courvoisier pour parler du festival féministe Les Allumeuses qui se déroule au 4 bis le 7 mars prochain. Et en fait, je vous avoue que Léonie est déjà avec nous. Bonjour Léonie.
Bonjour.
Moi, je vais commencer cette émission par un hommage, puisque je voudrais dédier cette émission, justement, à une femme que j'admirais, qui a contribué à ouvrir ma conscience politique et ma vision de la Palestine dès les années 90. C'est Leila Shahid, ancienne diplomate palestinienne, qui est morte le 18 février dernier. On n'en a pas beaucoup parlé en France parce qu'à ce moment-là, on était plus occupés à inverser l'ordre des choses, à tenter de faire diversion. Enfin bref, Leila Shahid a été à partir de 1993 et jusqu'en 2006 déléguée générale de la Palestine en France. Après 2006, elle a représenté son pays à Bruxelles. Elle a défendu son peuple avec une intelligence vive, fine et rare, une analyse historique irréfutable, rappelant à longueur de plateaux télévisés ou radiophoniques comment le peuple palestinien a été chassé par les Anglais puis les Israéliens en 1948. C'est la Nakba, un exode de 750 000 Palestiniens et Palestiniennes, et comment depuis ce peuple est colonisé et brutalisé. Ainsi, lundi, le 23 février, 20 pays dont la France ont condamné avec la plus grande fermeté les mesures d'Israël pour renforcer son contrôle de la Cisjordanie occupée depuis 1967. Malade, Leila Shahid a mis fin à ses jours. J'imagine que la situation dans son pays depuis le massacre par les terroristes du Hamas le 7 octobre 2023 n'est peut-être pas pour rien dans sa volonté de mourir. C'est d'ailleurs ainsi que débute le billet de Vincent Lemire, professeur d'histoire sur le blog de Mediapart. Leila Shahid est morte de chagrin, de colère et d'impuissance. Et si vous avez envie de lire la suite de cet article, eh bien sûr, je vous mets le lien sur le blog des héroïnes sur le site de Canal B. Alors, autre sujet vraiment pas drôle, en 2025, 167 femmes ont été tuées en raison de leur genre, parce que femmes ou poussées au suicide. Alors, c'est énorme. C'est un chiffre qui nous scie les papates. Pour comparaison, en 2024, 141 femmes ont été tuées, 136 en 2023. Ce chiffre, c'est bien sûr celui de l'inter-orga féminicide qui a été lancé en 2023 par, entre autres, Nous Toutes, Act Up Paris, Les Dévalideuses, et qui définit comme féminicide le meurtre ou le suicide forcé d'une femme en raison de son genre. Alors le suicide forcé, c'est celui qui intervient suite à des violences psychologiques, une emprise, un dénigrement continuel. Et c'est la journaliste Michelle Finn, j'espère que je prononce bien son nom, qui décrit le phénomène dans un livre qui est paru fin janvier, Les mots qui tuent, autopsie du suicide forcé, et c'est aux éditions Artaud. Depuis 2020, la France est l'un des rares pays au monde où il existe dans son code pénal une infraction de harcèlement par conjoint ou ex-conjoint ayant conduit la victime à se suicider ou à tenter de se suicider. C'est un délit qui est quand même passible de 10 ans de prison et de 150 000 euros d'amende. Donc je vous le rappelle, en 2025, 167 femmes ont été tuées. Et depuis le début de l'année, 2026, en France, déjà 16 femmes ont été assassinées parce que femmes. Voilà, c'était un début d'émission un peu coriace. Marine, avec vous, on va parler des règles sur les règles et de comment de sales petites personnes dotées d'un pénis s'amusent avec les douleurs des personnes dotées d'un utérus.
Exactement. Aujourd'hui, on va parler des règles des personnes menstruées et de qui les brise, les règles, à savoir les hommes. En octobre, l'école d'ingénieurs de Limoges, comme plusieurs établissements d'études supérieures en France, a mis en place un dispositif inclusif permettant aux femmes, personnes trans et personnes non binaires ayant leurs règles de bénéficier de 10 jours d'absence par an. Alors évidemment, ces 10 jours, ils sont pas un privilège ni un confort proposé aléatoirement aux personnes sexisées. Selon l'étude de l'INSERM, l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, 90% des femmes interrogées déclarent ressentir des douleurs pendant leurs règles et 40% parlent de douleurs modérées à sévères. Pour rappel, ce sont des douleurs souvent banalisées et minimisées par le corps médical, scolaire et professionnel, qui peuvent entraver l'apprentissage et le suivi des cursus, empêcher de se concentrer, provoquer de l'absentéisme forcé, et je parle même pas du sentiment de honte ressenti par les concernés. Permettre à celle-ci de disposer de 10 jours par an sans avoir à présenter un certificat médical n'est donc pas un passe-droit, mais plutôt une reconnaissance des vécus invalidants provoqués par une endométriose, des troubles hormonaux, un SPM ou encore un syndrome des ovaires polykystiques, etc. En fait, l'action répond à une réalité qui entraîne une inégalité structurelle profonde. Alors depuis le début des débats autour du congé menstruel, il y a une inquiétude qui monopolise les échanges, des femmes vont en abuser. Et patatras, ce sont des hommes, et pas en petit nombre, qui brisent ici les règles et nous les brisent au passage. Début février, dans la presse régionale, on apprend qu'à cette école d'ingénieurs de Limoges, je cite, une cinquantaine de jeunes étudiants ont abusé du congé menstruel expérimental pour s'absenter des cours obligatoires. Alors ce qui m'irrite grandement dans cette actualité, c'est l'usage par des personnes non concernées d'un dispositif établi pour réduire une inégalité face au désert médical et à la solitude sociale, et surtout le fait que ça fragilise ce droit conquis. Et ce qui m'interroge particulièrement, c'est pourquoi ces hommes se sont sentis autorisés à y avoir recours. Bah, peut-être parce qu'ils le peuvent, parce qu'ils craignent pas les sanctions en fait. Dans l'article du Huffington Post, on lit « Face aux abus, le recadrage a été très ferme. » Plus loin, on en apprend davantage sur ce recadrage très strict. Il écrit « Face à la situation, un courrier a été adressé à l'ensemble des étudiants pour rappeler que le congé menstruel est destiné aux personnes menstruées et que toute utilisation frauduleuse peut entraîner des sanctions pédagogiques. Il s'agit bien d'un congé menstruel et non mensuel. » J'arrive même pas à le lire sérieusement jusqu'au bout. Précise le texte dont le ton était très ferme. Fin de la citation. Donc c'est pas un fait isolé, c'est un mécanisme connu. Dans une société où le 39-19 est assailli de coups de fil de masculinistes visant à empêcher les concernés de bénéficier des services d'écoute et d'accompagnement dans les situations de violence patriarcale, dans une société où le moindre dispositif jugé woke est scruté dans l'attente de les décrédibiliser et d'anéantir tous les efforts des militantes et militants, dans une société où la moindre avancée féministe requiert une énergie de dingue, où les personnes où les droits des personnes sexisées reculent, où les discours et actes LGBTI-phobes, misogynes, racistes et d'extrême droite battent leur plein, on doit se satisfaire d'un courrier au ton ferme, soulignant qu'il se pourrait que peut-être la prochaine fois des sanctions soient appliquées à ceux qui ont confondu menstruel avec mensuel. Non mais le laxisme exercé à la faveur des personnes qui dominent, agressent, oppriment les personnes sexisées. Les comportements abusifs masculins, ils sont constamment minimisés, excusés. Oui, ce sont des étudiants, et comme tous les étudiants ou presque, ils cherchent des moyens de sécher, de contourner le règlement et blablabla. C'est pas la question en fait. La question, c'est pourquoi ce sont des hommes, et une cinquantaine d'hommes, ça rend le sujet significatif, ont usé de ce recours. Et pourquoi la réponse apportée est-elle si souple et permissive? Là où on n'aurait jamais accepté ça de la part des femmes, ça nous montre l'écart de traitement par le prisme de nos biais de genre. Les personnes menstruées, en tout cas certaines, souffrent durant leur cycle. On minimise leur vécu, on explique leur ressenti. À leur place, on dénigre les difficultés et entraves qui y sont associées, on débat pendant des plombes de dispositifs nécessaires à l'accompagnement des personnes concernées sans les personnes concernées. Et enfin, on biaise l'information, laissant penser qu'il s'agit là de privilèges ou pire, de preuves que les femmes sont faibles et vulnérables. Et on envoie un courrier au ton ferme quand les hommes abusent d'un arrêt maladie dont ils ne sont pas concernés. C'est pas anecdotique. Détourner ce dispositif en tant qu'homme n'envoie pas seulement un message de maladresse dû à l'immaturité de quelques étudiants un peu glandus, il rabaisse et fragilise une expérimentation essentielle à l'amélioration du quotidien des femmes, à la prise en considération de leur vécu et surtout il vient dire que les hommes bénéficient d'une forme d'impunité puisqu'ils sont rarement punis à la hauteur de leurs actes. Alors pour finir, quand même sur une note positive, j'ai envie de remercier Amber Glenn, patineuse artistique de haut niveau, qui a saisi l'occasion lors des JO de Milan pour parler des difficultés des athlètes à concourir en période de menstruation. Avec une grande spontanéité, elle a mis sur la table un sujet essentiel, je la cite. « J'ai mes règles en ce moment, c'est vraiment très difficile, surtout quand on porte ce genre de vêtements et qu'on doit être performante devant le monde entier. C'est dur et personne n'en parle, c'est vraiment difficile et effrayant. Vous êtes très émotive, c'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup quand on est une athlète féminine, alors que ça devrait être un sujet de discussion. » Fin de la citation. Elle rejoint la skieuse Dorothea Wührer, la joueuse de tennis Zheng Qinwen, la nageuse Fu Yanhui, la handballeuse Estelle Enzeminko ou encore la judoka Clarisse Agbenienou, autant de grandes championnes qui brillent par leurs compétences, leurs talents et leur prise de parole pour accélérer la prise de conscience et briser cette fois non pas nos efforts et nos droits, mais le tabou des règles.
Merci Marine. Alors je j'ose pas imaginer que ces petits rigolos se soient sentis et réagis par jalousie en disant elles ont un congé et pas nous, ou vraiment c'est des crétins comme pour ceux qui ont attaqué le 39-19. Léonie, vous êtes étudiante à Sciences Po, il me semble qu'à Sciences Po Rennes vous avez ce congé menstruel.
Oui, il me semble.
Après... Que quand certaines souffrent, elles peuvent s'absenter.
Oui, c'est un dispositif qui est de plus en plus dont les universités et les écoles ont pris conscience. Après, de la part, c'est les associations étudiantes la plupart du temps qui amènent ce sujet et qui du coup l'apportent aux oreilles des responsables des établissements. Et du coup, ça devient aujourd'hui quelque chose qui est pris en compte. Après, en termes de mise en pratique, en termes de chiffres, je ne sais pas si c'est vraiment appliqué, si des fois, par exemple, des étudiantes ont des conséquences, je ne sais pas du tout.
En tout cas, c'est de plus en plus appliqué, mis en place dans les écoles et les universités, et c'est tant mieux. On va faire une première pause musicale dans les Héroïnes sur Canal B. C'est mon gros, très gros coup de cœur du moment. C'est le nouveau titre du groupe rennais Requin. Et ça s'appelle Evergreen.
Falling to pieces under your lemon kisses on her love, coming to ashes evergreen, golden love is over. My delusion, your candor, your lemon kisses on her tears, rolling back roses evergreen, golden love is over. My delusion.
kisses on her tears, rolling back roses evergreen.
Mais quelle beauté, c'était le titre Evergreen du groupe rennais Requin. Et vous l'avez peut-être reconnu, c'est la voix de Gwen Pacott, notre chroniqueuse ici dans les héroïnes. Voilà, donc attendez-vous à l'entendre souvent cette année, ce morceau qu'on aime beaucoup. En janvier dernier, vous avez peut-être entendu parler du décès de Claudette Colvin. Alors Claudette Colvin était une afro-descendante américaine qui, à 15 ans, le 2 mars 1955, refusa de céder sa place à une blanche dans un bus de Montgomery, Alabama, comme les lois ségrégationnistes et racistes le prévoyaient alors aux États-Unis. Ça vous rappelle sans doute quelque chose, c'est normal, j'y reviendrai. Claudette Colvin sera expulsée du bus par 2 agents de police. Emprisonnée, elle sera jugée et condamnée. Elle va tout perdre, son procès et le droit de devenir avocate comme elle en rêvait. Elle tombe enceinte à 17 ans après une relation non consentie et sera renvoyée de l'école. Elle part pour New York où elle devient aide-soignante. À partir de 2016, sa famille s'est battue pour la reconnaissance de son acte, pour qu'elle ne soit plus oubliée de l'histoire. En 2021, à 82 ans, Claudette Colvin a elle-même demandé que son casier judiciaire soit radié et un juge a accédé à cette demande. Le geste de Claudette Colvin, son refus, sa résistance, d'adolescente, s'est produit 9 mois avant le même geste par Rosa Parks. Mais l'histoire n'a retenu que Rosa Parks, effaçant cette jeune héroïne noire, Claudette Colvin, de la lutte contre la ségrégation et pour les droits civiques. Car elle va être rejetée par sa propre communauté parce que jugée trop sulfureuse, trop fauteuse de troubles et que sa grossesse aurait pu discréditer le mouvement de lutte pour les droits civiques. Et à ce sujet, je vous conseille de lire le livre de Tania de Montaigne, « Noir, la vie méconnue de Claudette Colvin », paru en 2015 aux éditions Grasset, me semble-t-il, lequel a donné un spectacle et puis en ce moment, une exposition immersive au Champ Libre qui est malheureusement déjà complète. Alors, tant mieux pour les Champs Libres et pour cette superbe exposition, mais tant pis pour nous. Ce qui est intéressant avec ce que nous dit Tania de Montaigne, c'est qu'elle explique que le choix fait par des hommes noirs de se porter sur Rosa Parks, en fait, c'est parce que Rosa Parks, elle est mariée, elle est couturière, donc elle est toujours bien mise et elle apparaît comme une icône bien plus propre, bien plus respectable que ne l'aurait été à leurs yeux Claudette Colvin. On est là au cœur de l'intersectionnalité définie par l'afroféministe Kimberlé Crenshaw à la fin des années 90, c'est-à-dire être une femme et être une femme noire, donc double discrimination. La victime n'est pas assez parfaite, elle n'est pas assez sage, elle n'est pas assez lisse. Depuis, l'écrivaine et militante afro-descendante américaine Moya Bailey a inventé en 2010 la notion de misogynie noire pour parler de la double discrimination subie par les femmes noires dans le hip-hop d'abord, comme Aya Nakamura, Ebony ou Théodora chez nous.
Baby girl, tu sais, je vaux beaucoup. Même si parfois je ne joins pas les deux bouts. C'est à cause de mon fiat qu'il éloigne trop mes genoux. Et mes gros seins me font souvent mal au cou. Baby girl, tu sais, je vaux beaucoup. Même si parfois je ne joins pas les deux bouts. C'est à cause de mon fiat qu'il éloigne trop mes genoux. Et mes gros seins me font souvent mal au cou.
La boss lady Théodora, victime de misogynie noire parce que femme et noire, son corps va être hyper sexualisé, son comportement et ses tenues décortiquées et critiquées, ses prises de parole dénigrées systématiquement. La misogynie noire, ce n'est pas que dans le hip-hop, c'est partout au travail où la discrimination à l'embauche et à l'accès à des postes hiérarchiques est très forte pour les femmes d'origine subsaharienne. Dans l'accès à la santé aussi, là on parle du syndrome méditerranéen qui veut que les soignants et soignantes minimisent la gravité de l'état de santé et les douleurs des personnes noires et notamment des femmes noires.
Et sans suite,
les recule. Ils m'ont pris mon disque, j'aime encore moins la police. Sexy ghetto, appelle-moi freaky mal poli. Si je choisis une bague, son diamant est bien poli. Donc mon chou à la barre n'est jamais ramolli.
De Théodorin, alors ça va surprendre, ça va en surprendre plus d'un sur Canal B, bah c'est pas grave, voilà, ça fait du bien. Alors peut-être avez-vous vu également passer cette info, le ministère de la Santé a décidé de mettre fin dès avril 2026 au financement des maisons et centres de santé intégrés au dispositif structure d'exercice coordonné participative. Ces structures sont plus connues sous le nom de maisons et centres de santé communautaires. Elles garantissent l'accès aux soins des populations les plus fragiles et sur notre territoire, à Rennes, sont concernés le centre de santé communautaire du Blône et l'ASVB de Villejean. Il y a un médecin qui lui travaille à la maison de santé Pyrénées-Belleville à Paris qui a lancé une pétition. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien sur le blog des héroïnes sur le site de Canal B. Autre pétition à aller signer. Tu, Marine, vous voyez, ouais, on est déjà plus de 100 000 hein, à l'avoir signée. C'est celle pour la dissolution du groupuscule d'extrême droite Némésis. Pareil, hein, vous trouvez le lien sur le blog des héroïnes sur le site de Canal B. Les membres de Némésis organisent des guet-apens pour que leurs petits copains fachos puissent casser la gueule à des gens de gauche. Sa leader, Alice Cordier, intervenait très régulièrement dans l'émission du pédocriminel Morandini. Elle et ses copines ont un pseudo-féminisme qui ne s'attaque qu'aux hommes racisés, considérant à tort que seuls les hommes d'origine étrangère, et notamment musulmans et d'origine subsaharienne, s'en prennent aux filles et aux femmes. C'est bien sûr complètement faux. Donc si ça vous intéresse, allez signer la pétition. On est déjà plus de 100 000 hein, à l'avoir signée aujourd'hui. Alors, je vais terminer cette première slave d'infos par une info dramatique. C'est la situation des Afghanes. Pour rappel, depuis 2021 et le retour des talibans au pouvoir, ceux-ci ont supprimé peu à peu les droits des femmes. D'abord, elles n'ont plus eu le droit d'aller à l'école secondaire ni à l'université. Elles doivent se couvrir tout le corps à l'exception des yeux. Elles ne doivent plus apparaître dans l'espace public et n'ont plus accès aux ONG. Les salons de beauté ont été fermés. Elles n'ont plus le droit de chanter, de rire, de parler, d'être à la fenêtre, de se faire soigner puisqu'il n'y a plus de médecins femmes et qu'elles ont interdiction de se faire soigner par un homme. Donc, elles n'ont plus accès aux soins. On a muré les fenêtres de leur cuisine et en janvier, un cap gravissime a été franchi puisque les talibans ont autorisé les maris à frapper leurs femmes. Voilà, ça se passe en Afghanistan. On va faire une nouvelle pause musicale. Pardon, je suis un peu perturbée par cette actu.
La pause
pourtant,
est bienvenue.
Ouais, une nouvelle pause musicale dans les héroïnes sur Canal B. Donc, on va écouter Iris 2000 avec son titre « Remède ».
J'ai jamais été quittée par un autre. J'ai jamais prisé quittée pour un autre. Sans passion, je ne peux que penser logique. Salariat ou son manager toxique. J'ai toujours été avec toi, non. Toujours sollicité tous mes fragments. Fumer ne justifie rien, je sais que t'as mal. 2023, tout le monde une médaille.
C'est bien plus sexy d'aborder la guerre. Ouais, c'est bien plus sensuel qu'un mec en colère. Je préviens par avance que je suis bien comme ça. Ces trois mecs qui m'aiment n'aiment pas du tout ça. L'opinion perturbe un monde idyllique. Sans aucun bienfait, tu deviens agressif. La facilité, ça me pèse beaucoup. Moi, je comprends que c'est bien moins stressant quand c'est primitif. Sous dans l'air, c'est pas leur faute. C'est bien.
Remède, titre d'Iris 2000 dans les Héroïnes sur Canal B. Iris 2000, talentueuse chanteuse et musicienne rennaise qui poursuit sa route artistique avec classe et brio. Elle était récemment la première partie de Suzanne et puis on l'a appris mercredi au juin. Iris 2000 a été sélectionnée aux Inouïs du printemps de Bourges. Elle va représenter la Bretagne et ça à Canal B, on s'en réjouit grandement. On n'a pas encore la date précise du concert à Bourges. Ça sera entre le 15 et le 20 avril. Iris, elle sera aussi en concert le 6 mars au Centre culturel de Saint-Jacques-de-la-Lande et elle sera le 3 et le 4 juillet au Droukfest à Aider Bazouge. Voilà. Le 8 mars approche, c'est dans 10 jours. C'est la journée internationale de lutte pour les droits des femmes et les minorités de genre. Et comme chaque année, à Rennes, c'est le mois des femmes. Alors, cette année, du fait des élections municipales, le programme est loin d'être aussi riche que les années précédentes. Mais voici une petite sélection. D'abord, Canal B vous donne rendez-vous vendredi prochain à midi pour une émission spéciale Droits des femmes. C'est le Réveillon féministe orchestré par Nina Beltrame, Julie Beaufils et Manon Potier de Canal B, qui seront entourés ce jour-là de chroniqueuses bénévoles et techniciennes de la radio. C'est donc vendredi 6 mars à midi sur cette même antenne et en rediffusion le dimanche 8 mars à 16h30. Le 8 mars, toujours, le collectif Grève féministe vous donne rendez-vous dès 11h. Maï François Mitterrand pour échanger, partager, s'informer, découvrir, participer à des ateliers, écouter les prises de parole. C'est donc sur le Maï François Mitterrand et c'est de là que s'élancera la manifestation. Avant cela, je vous conseille dès demain, samedi 28 février, d'aller à 14h chez Cœur Résistant, 4 rue du Faux-Pont à Rennes, où le collectif Nous Toutes 35 vous donne rendez-vous pour un atelier bricot pour fabriquer banderoles, pancartes et collage féministe en prévision du 8 mars. Dimanche, il y a un vide dressing de 13h à 18h au Crideb. Ça se trouve avenue Janvier. C'est organisé par le collectif Gros Amour avec des vêtements du 44 au 58, des chaussures, des bijoux, des accessoires. Samedi 7 mars de 10h à 16h, ça se passe place de la mairie. C'est le village féministe où vous pourrez rencontrer des structures professionnelles telles que le CIDEF 35, le planning familial 35, l'ASFAD, la Maison des Femmes Gisèle Halimi, ISKI, Centre LGBTQIA+, de Rennes, entre autres, pour vous informer. Et ce même jour, le 7 mars, c'est aussi le festival Les Allumeuses au 4 bis et vous avez largement le temps de faire les deux. D'ailleurs, le festival Les Allumeuses, on va y venir dans quelques instants avec Marine et Léonie. Je poursuis ma sélection d'événements autour du 8 mars pour les droits des femmes et des minorités de genre. Rendez-vous le 12 mars, c'est un jeudi à 20h aux Ateliers du Vent. Je vous conseille de réserver votre place pour assister à la rencontre croisée entre Amandine Gay et Bérénice Hamidi autour de sexisme, racisme et privilèges blancs dans les arts et la culture. On fait quoi ? C'est organisé par HF Plus Bretagne. Le lendemain, vendredi 13 mars, le collectif Gros Amour vous propose un atelier de 16h à 18h30 au BAM, bâtiment à modeler à Clunay, pour prendre conscience de l'impact de la grossophobie dans nos familles, au travail, à l'école, dans le milieu médical, dans la rue, partout en fait. Et il faut s'inscrire à l'adresse suivante, présidence@planning-familial-35.fr, car c'est organisé par le Planning Familial 35 et le collectif Gros Amour. Je termine avec une date, c'est celle du 19 mars, c'est un jeudi, à 18h30. Il faut aller voir le documentaire « Nous, les caissières », qui permet de comprendre le parcours d'émancipation de 4 femmes, caissières au magasin Mammouth, puis au Carrefour, au Centre Alma. C'est organisé par Histoire du Féminisme à Rennes. Il faut également réserver sa place à l'adresse histoire.féminisme.rennes@gmail.com. Alors bien sûr, pas de panique, je vous mets tout ça sur le blog des héroïnes, parce que là je fais un peu... Allez vite et vous avez peut-être pas eu le temps de tout noter. Je vous mets toutes les infos sur le blog des héroïnes, sur le site de Canal B. Rendez-vous vendredi prochain, le 6 mars à midi, sur Canal B pour écouter le réveillon féministe. Et le dimanche 8 mars, on se retrouve Maï François Mitterrand dès 11h. Et le samedi 7 mars, on y vient. On sera au 4 bis avec Léonie et ses co-organisatrices du festival Les Allumeuses. C'est bien ça, Marine ?
Exactement. Alors une petite introduction hein, dans son diagnostic 2025 sur les inégalités de genre dans les arts et la culture en Bretagne, l'association HF Plus Bretagne définit 4 axes d'observation majeurs, dont la visibilité des artistes. Et elles écrivent en introduction à ce propos que c'est un enjeu important pour un secteur qui contribue à construire l'image de notre société et les imaginaires. Il est important que ce qui est donné à voir au public soit le reflet des diversités et contribue à nourrir le patrimoine de demain. C'est aussi un enjeu qu'il y ait des modèles permettant à chacun, chacune de se projeter dans ses voies artistiques. Alors comment imaginer devenir ce qu'on ne voit jamais ? Ces mots, forcément, ils résonnent avec la création d'un nouvel événement à Rennes, le Festival culturel féministe Les Allumeuses, qui viendra questionner le regard dominant porté sur l'art et valoriser les œuvres des femmes et globalement des personnes sexisées encore largement invisibilisées dans les espaces culturels traditionnels. Alors à l'initiative de cette action, 4 étudiantes, Émilie Cadeau, Barbara Demet, Lily Lebaille et Léonie Courvoisier, nous recevons cette dernière en plateau. Rebonjour Léonie et merci d'être avec nous.
Bonjour.
Le festival aura lieu, donc on l'a dit, le samedi 7 mars, dès 14h et jusqu'à 21h. C'est au 364 bis à Rennes. Et ma première question, elle est simple, sans dire que les autres vont être compliquées. Qu'est-ce qui vous a amené à créer un festival culturel féministe ?
Alors en fait, c'était le désir de s'engager sur des questions féministes, parce que c'est des questions qui sont importantes pour nous en tant qu'étudiantes, spécialement parce que c'est encore des situations où on est spécialement confrontés aussi à des situations de violence, etc. Mais voilà. Et c'était de croiser aussi ça avec les questions artistiques, parce qu'on a chacune en fait des expériences dans l'art, que ce soit dans la musique, la danse, le dessin, etc. Et donc on a toutes pu expérimenter que c'était un milieu qui était masculin en fait, comme dans tous les milieux dans lesquels on évolue. Et donc nous, c'était important en fait de se réapproprier aussi ce terrain là en mettant en avant du coup une autre position possible vis-à-vis de l'art, de notre culture, etc. Donc voilà, ça nous semblait important. Et en plus, il y a une dimension un petit peu festive au fait de faire un festival. Donc c'est aussi de mettre et de célébrer en fait l'art sous des dimensions plus féministes.
On entend hein, du coup partir justement de vos vécus personnels pour résonner dans le collectif. On traverse une époque où le contexte il est ni favorable aux arts et à la culture, même si ça y est, elle est partie. Et ça, on peut s'en réjouir, même si on ne sait pas ce qui va se passer pour la suite. Mais c'est aussi un contexte qui n'est pas favorable non plus envers les féminismes. Comment il a été accueilli justement ce festival dans vos entourages, certes, mais aussi notamment dans le public étudiant et l'institution universitaire?
Alors ça a été plutôt bien reçu parce que donc nous on est étudiantes en sciences politiques et comme on le disait par exemple sur les congés menstruels, les établissements aujourd'hui ils savent que c'est important comme thématique, donc ils sont dans cette démarche-là. On a quand même un soutien de la structure de notre école. Par le public étudiant, c'est aussi ça a été plutôt bien reçu. C'est un public qui est aussi très sensibilisé à ces questions-là en sciences politiques, on en est consciente. Après, on a eu aussi d'autres retours qui étaient un petit peu plus dubitatifs, voire négatifs, notamment via le nom en fait du festival, qui est donc les Allumeuses, et on savait que c'était un nom très subversif, et on a eu des retours au masculin par exemple qui étaient un petit peu dubitatifs sans exprimer clairement ce qu'ils en comprenaient, ce qu'ils entendaient derrière, mais on a compris que ça les perturbait, voire que ça pouvait les choquer.
On va en parler justement de ce nom. Avant, j'aimerais vous demander dans les grandes lignes, en fait, avant qu'on entre vraiment dans le détail de cet enjeu, c'est quoi l'objectif de ce festival ?
Alors du coup, l'objectif du festival, il est double. C'est d'une part donc de mettre en avant toutes les initiatives artistiques qui sont féministes, qui sont intersectionnelles, etc. Parce que du coup, c'est un public, on le sait, qui est vachement minorisé, vachement invisibilisé, et donc qui ne jouissent pas de la même scène. Donc c'était très important de pouvoir offrir cette scène-là, et comme d'autres festivals féministes l'ont fait à Rennes, aux Parleuses, etc. Toutes ces initiatives ont pour but de leur fournir de nouvelles occasions d'être visibles et de prendre elles aussi de la place dans l'espace public. Et c'est aussi, dans un second temps, de montrer le sexisme de l'art, parce qu'on a l'impression que l'art est neutre. Mais on sait que l'art, il est pas neutre. On sait que nos musées ne sont pas neutres. En plus, les musées, c'est considéré comme l'art légitime. Et on sait qu'il y a très peu de femmes qui sont artistes, par exemple, qui ont une place dans ces lieux-là. Donc, c'est aussi de réfléchir. C'est pour ça qu'on a une partie à la fois pratique avec des artistes et une partie théorique où on va débattre et décortiquer un petit peu tout ça.
Il y a du décryptage, vous l'avez dit, il y a de la visibilité qui est faite dans ce festival, et cette visibilité, elle peut pas aller sans accessibilité. Avant justement qu'on parle du nom du festival, le festival, il est à prix libre, hein, c'est bien ça ?
Oui, exactement, parce que étant étudiante nous-mêmes, on sait que c'est important le caractère du prix. On sait que c'est quelque chose qu'on regarde beaucoup quand on veut accéder à des événements culturels, mais on sait aussi que enfin les associations, etc., vu les coupes budgétaires, n'ont pas forcément les moyens aussi de faire des événements gratuits. Donc c'est un tandem, enfin un équilibre qui est un petit peu compliqué. Mais oui, on a voulu vraiment avoir ce prix libre pour que ça puisse être accessible en fonction des moyens de chacun et que l'argent soit pas un caractère rebutant entre guillemets pour venir.
Que ce soit pas un frein, en tout cas pas un frein comme visiblement peut l'être le nom du festival sur lequel on peut pas ne pas s'arrêter, évidemment, les allumeuses, hein, ça nous évoque un peu l'appropriation d'une insulte pour justement renverser cette insulte. Comment vous avez choisi justement ce nom et qu'est-ce que vous y mettez derrière ce terme d'allumeuse avant qu'on parle justement de ce que Christine Jean, elle y met dans son livre et ce qu'elle viendra présenter le 7 mars. Qu'est-ce que ça vous a évoqué pour vous, les fondatrices de ce festival ?
Alors, c'est jamais simple de trouver un titre. Donc, au début, on a beaucoup hésité. Il y a beaucoup d'idées qui ont fusé. Mais c'est vrai que le titre Allumeuse est apparu à un moment donné et on a trouvé qu'à la fois, il y avait un côté qui claque, qui interpelle. Et donc, c'était aussi le but, c'est vraiment de prendre de l'espace et d'interpeller les gens et de pas être dans cette démarche, justement, où on encourage, par exemple, les filles, les femmes à être discrètes, à pas prendre de la place. Donc, évidemment, on a eu beaucoup d'hésitations, du coup, à choisir ce mot. Et on le voit bien encore aujourd'hui avec des réactions masculines. On savait que ça pouvait nous mettre dans des situations qui pouvaient être pas forcément confortable pour nous, mais on a voulu garder ce cap là et surtout, oui, c'est derrière ce mot allumeuse, pour nous ça nous représentait un petit peu tout un symbole en fait du patriarcat et aussi via l'art, comme on va pouvoir sans doute en parler, mais de se réapproprier des mots qui peuvent être fixés sur nous-mêmes, sur nos comportements, nos façons de nous habiller. On a déjà pu le vivre nous-mêmes déjà dès notre jeune âge, cette sexualisation-là, via d'autres termes, aguicheuse, etc. Donc c'est un peu une revendication et une revanche, entre guillemets, en revendiquant ce mot et en osant prendre le devant de la scène avec.
Et puis c'est quelque chose qui nous traverse en fait à toutes les époques, à tous les âges, parce que justement dans son livre, Christine Van Gien, qui est du coup journaliste et autrice rennaise, qui a écrit Allumeuse, un mythe pour dominer les femmes, elle va parler justement de toutes ces figures qui ont traversé les époques. Je la cite du coup dans son livre, elle dit: il n'y a pas d'allumeuse sans histoire autour, racontée à partir d'un certain point de vue. Pas d'allumeuse sans male gaze, sans regard allumé et sans trame narrative. Ces histoires d'allumeuses, ou plutôt ces histoires d'allumés qui leur prêtent l'intention de les frustrer, se racontent depuis l'Antiquité, forgeant un imaginaire qui tient souvent lieu de pensée. Donc samedi 7 mars de 14h à 15h15, l'autrice analysera les différents archétypes que l'allumeuse incarne, à commencer par la figure d'Ève. C'est quoi le lien entre cette thématique, les arts et la culture, et votre festival, justement ? Qu'est-ce qui réunit toutes ces allumeuses dans le festival ?
Eh bien, en fait, l'art est intimement lié à toutes ces questions, ces insultes ultra-sexualisantes. L'art participe à installer et à consolider en fait la sexualisation permanente des femmes. Comme je le disais tout à l'heure, par exemple dans les musées, on a par exemple le mouvement des guérilla girls, pardon, qui a vraiment essayé d'interpeller le public sur ça, que il y a pas d'artistes femmes dans les musées, mais il y a énormément de femmes représentées nues. Donc en fait, on a une quantité d'hommes qui sont présents et qui déshabillent les femmes dans le sens le plus concret aussi via leurs œuvres. Et en fait, l'art est une forme de permissivité pour projeter tous les fantasmes masculins et du coup à mettre des images, parce qu'on parle de représentation pour le coup, des images sur le corps féminin comme un corps qui cherche à plaire, qui cherche à jouer de ses atouts pour séduire les hommes, pour les faire tomber, etc. Et donc se réapproprier cette scène en disant ben non, le corps féminin il est pas du tout destiné que à être un objet de enfin de désir. Il peut non seulement lui exprimer du désir, mais il peut aussi en fait exprimer tout plein de choses. Et ça va aussi avec tout cet imaginaire qu'on a de la muse, etc. Où en fait on place toujours à une place de passivité en fait la femme. Et donc de non seulement en plus on sexualise la femme, mais en plus l'art il sert à romantiser la violence. Donc en fait après on justifie cette violence qui est faite envers le corps féminin parce que c'est le corps féminin qui l'a suscité. Et après on romantise la passion, les relations tumultueuses, etc. Donc vraiment l'art il participe à exprimer le réel. On dit souvent que c'est de la fiction, etc. Mais en fait il crée le réel et il nous construit un imaginaire qui est ultra sexiste.
On va justement dans ce festival pouvoir déconstruire tout ça et du coup on va entrer plus dans les détails justement de cet espace de visibilité et de déconstruction des stéréotypes et des représentations sexistes que les arts et la culture nous donnent à voir. Mais avant du coup on va faire une pause musicale du coup en écoutant BB Club Washing Machine. D'entendre BB Club Washing Machine. On est toujours en compagnie de Léonie Courvoisier, coprésidente aux côtés d'Émilie Cadeau, Barbara Demet et Lily Lebail du Festival culturel féministe Les Allumeuses, qui aura lieu le 7 mars prochain au 4 bis 360 à Rennes. On a évoqué la genèse du projet, on a abordé le nom et toute la symbolique qu'il y a derrière l'insulte allumeuse. J'ai maintenant envie d'entrer encore plus dans le vif du sujet. Visibiliser et valoriser le travail artistique des femmes et personnes queer figure, on l'a compris, comme un objectif prioritaire du festival Les Allumeuses. En quoi est-ce que c'est un enjeu majeur encore aujourd'hui ?
Alors du coup, c'est un enjeu majeur évidemment pour les visibiliser, parce que comme on disait, elles sont largement invisibilisées, donc c'est juste une question aussi d'équité et de justice qu'elles aussi puissent avoir une tribune. Ensuite, l'art, ça permet aussi d'exprimer en fait sa révolte, d'avoir un cadre aussi qui est plus socialement accepté. Justement, vu ce caractère permissif de l'art dont on a parlé, le seul avantage, c'est que du coup, on peut aussi plus entendre, on est plus disposé à entendre ce genre de revendications. Et puis surtout aussi, c'est aussi l'objectif du festival, c'est montrer que c'est un enrichissement de s'ouvrir à tous ces nouveaux imaginaires, parce qu'on pense toujours que le féminisme appauvrit l'art, qu'on peut plus faire, c'est toute la théorie de la cancel culture. Et au contraire, c'est de montrer que en écoutant tout le monde et en visibilisant tout le monde, c'est une richesse qui est vraiment incroyable et dont on n'aurait pas, on n'a aucune raison de se priver.
Vous avez raison, vous pointez le côté justement positif, ouverture, et ça nous mène aussi justement à envisager ces changements sous un angle positif et festif. Vous en parliez au début de l'interview, de ce côté festif. Il n'y a pas que des revendications, ou en tout cas dans les revendications, on peut aussi célébrer, je reprends les termes de votre communiqué, célébrer la prolifique scène artistique féministe et intersectionnelle. Donc le festival, il entend contribuer justement à la transformation des imaginaires culturels. Et là, on touche clairement à la question des représentations. C'est quoi l'enjeu dans ce changement ou cette réappropriation des représentations? Et justement, en quoi c'est joyeux? En quoi on peut fêter un petit peu cette diversité, cette pluralité?
La question de la représentation, elle est hyper importante, parce que comme on le disait, l'art construit vraiment le réel. C'est pas juste un espace de fiction qui n'aurait aucune importance et qui serait neutre. Il construit notre construction, la construction des petites filles, etc. Donc c'est hyper important d'avoir des modèles, même l'art mainstream, entre guillemets, les Disney essayent de repenser leur modèle de la princesse, etc. Même en termes de représentation, de faire des petites filles qui sont noires aussi, qui sont pas que blanches. Enfin, tous ces modèles-là, ils sont hyper importants parce qu'ils permettent d'oser se dire, ah ben moi je pourrais faire telle chose dans ma vie, je peux aussi prendre de la scène, je peux aussi prendre de la place. Donc la question de la représentation, elle est hyper importante, et voilà, tous les imaginaires, c'est quelque chose qui se développe et qui se construise au sein de tout le paysage artistique dans lequel on baigne depuis, en fait, depuis qu'on est né.
Dans ce festival, on va pouvoir écouter des personnes sexisées, on va pouvoir voir des expositions, faire des ateliers, participer peut-être même à une œuvre participative dont on parlera juste après. Justement, on commence peut-être, on a parlé de la conférence de Christine Van Gien, mais il n'y a pas que celle-là, il y a aussi du coup l'intervention d'Audic Rosen, qui est artiste, peintre et performeuse. Je vous laisse en dire quelques mots.
Oui, du coup, elle fera une intervention autour de son exposition. Elle va avoir une exposition de quelques-unes de ses œuvres. Et elle va aussi mettre en avant la façon dont les femmes sont invisibilisées quand elles représentent le corps aussi et les expériences liées au corps féminin. Donc ça rejoint aussi toutes les questions de censure, en fait, de toutes les thématiques d'accouchement, des règles, parce que l'art, on sait que même sur Instagram, par exemple, des publications avec du sang menstruel est complètement banni par l'application. Et en fait, c'est juste une preuve, l'art, de ce qui est invisibilisé dans l'art, c'est ce que la société, elle veut pas écouter non plus, et ce qu'elle veut pas voir. Oui, l'artiste va mettre vraiment ça en avant, ces thématiques-là, et son expérience par rapport à son expérience artistique sur ces questions-là.
Donc ça, c'est à pas rater, comme la table ronde qui va réunir les metteuses en scène rennaises Marine Bachelot Nguyen et Frédéric Mingan. Ça, ce sera de 17h15 à 18h30 autour de l'art pour réinventer nos imaginaires, pratiques féministes dans le domaine théâtral. Mais il y a aussi donc des expositions, un atelier d'écriture, des stands de vente artisanale et la présence d'associations féministes, dont le collectif des femmes de Villejean Counet, qui va créer une œuvre collective et participative. On a envie d'en savoir un peu plus quand même sur cette œuvre.
Exactement. Alors déjà, il y aura deux de leurs robes qui seront exposées, parce qu'on aura la vitrine du 4 bis du 3 au 14 mars, du 4 au 14 mars je crois, pardon, où certaines œuvres seront exposées, avec aussi deux robes du collectif Counet. Et le jour du festival, il y aura en plus une robe participative auquel le public pourra se joindre, et cet atelier sera introduit par le collectif qui guidera le public.
Et enfin, on termine, enfin vous terminez, parce que moi j'ai rien fait du tout dans cette programmation, vous terminez par un drag show flamboyant qui viendra enflammer la scène du 360 grâce aux orphelines.
Exactement, pour nous c'était important aussi de finir sur une dimension festive et quoi de mieux qu'Orpheline pour prendre le devant de la scène et justement montrer aussi que ça peut être sous une dimension qui est festive et que le féminisme c'est pas boring et encore une fois de nous surprendre avec des shows qui vont sortir de l'art mainstream, voilà.
Parfait, on adore le nom du festival, on adore la programmation, donc on le rappelle, c'est le samedi 7 mars au 4 bis 360 à Rennes.
Exactement.
Merci Marine.
Merci.
Et Léonie. Merci Léonie d'être venue. Vous saluerez vos cofondatrices du festival. Moi, avant qu'on se quitte, je rappelle trois dates. Attention là, votre début de mois de mars, il est... festif, militant, en tout cas, on se donne rendez-vous vendredi prochain à midi sur Canal B pour l'émission spéciale sur le droit des femmes, c'est le réveillon féministe de Canal B. Le 7 mars, on est au 360 pour le festival Les Allumeuses, on vient d'en parler avec Marine et Léonie. Et puis le 8 mars, dès 11h, c'est sur le mail François Mitterrand que l'on se retrouvera pour un avant-manif vraiment festif, militant, plein de sororité, mais on accepte les gars, allez, les meilleurs d'entre eux. On va se quitter avec un gars. Ah, c'est rare dans les héroïnes, mais on va se quitter avec un gars parce qu'en fait, il parle d'une boss lady, la sienne, c'est sa maman. Il parle de sa maman et je trouve son texte plutôt très joli. Vous me direz ce que vous en pensez, les filles. C'est This Is avec On s'en rappellera pas. Vous retrouvez toutes les informations sur le blog des héroïnes, sur le site de Canal B. Je vous souhaite un bon week-end, un bon mois de mars, mais nous on se retrouve dans 15 jours. Merci Marine, merci Léonie. Bon week-end, à bientôt, salut.
Ma mère c'est un éléphant, c'est l'orchestre, c'est le big band. Je fais des 8 ans entre ses jambes pour apprendre à marcher. Ma mère c'est le big band, la comptine, la musique de chambre. Je suis posé là sur son ventre, j'apprends à jacter. C'est tout le contraire de l'inverse, c'est le tonnerre qui compte. L'éclaircie et l'averse, celle qui fonde le monde. Les chiens ne font pas des chats, mais les hommes savent faire des monstres. Qui est Napoléon s'en rappellera pas. Je t'agite entre les secondes. T'as fait ci, t'as fait ça. On s'en rappellera pas. On s'en rappellera pas. Parfois le dimanche, ma mère c'est le silence. C'est pas pour les louanges qu'elle se met en retrait. C'est pour celles qui fondent le monde qu'elle se met sur cette longueur d'onde. Je fais 8 entre ses ombres pour apprendre à marcher. Les chiens ne font pas des chats, les hommes savent faire des monstres. Qui est Napoléon s'en rappellera pas. Tu vis, tu meurs déjà. Je t'agite entre les secondes. T'as fait ci, t'as fait ça. On s'en rappellera pas. On s'en rappellera pas. Ma mère c'est l'amour dans la pièce, C'était la longueur d'onde. Quel beau palmarès que de fonder le monde. Ils ont mangé la terre, l'enfant et la mère, pour des trésors de guerre. On s'en rappellera pas, on s'en rappellera pas.